BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, en direct jusqu'à 19h. Beaucoup de choses ce soir à vous raconter. François Bayrou qui est à Mayotte, qui a commencé à parler reconstruction à quelques instants. On va voir ça dans un instant dans le journal. Et puis 18h15, nos experts qui seront là, bien sûr, avec beaucoup de sujets à aborder à l'aube de cette année 2025 qui se présente à nous les bras ouverts. Est-ce qu'on aura un budget rapidement en France? Éric Lombard était censé en tout cas commencer à discuter avec les partis politiques aujourd'hui. On n'a pas eu vraiment d'écho à ce sujet. Et puis plein d'autres questions aussi. Tout le monde a bien en tête évidemment les dernières déclarations du tandem infernal Donald Trump-Elon Musk qui, eux, comme dit l'expression, ne connaissent pas vraiment la trêve des confiseurs. Voilà quelques-uns des thèmes de notre discussion. On est ensemble jusqu'à 19h sur BFM Business. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc François Bayrou qui vient de le dire à Mayotte, il veut reconstruire en 2 ans, en l'espace de 2 ans. Bonsoir Mathilde Chaminade. Il vient de prendre la parole pour évoquer ce plan qui commence déjà à se mettre en place, Mathilde.
Oui, François Bayrou a annoncé plusieurs mesures et d'abord des mesures d'urgence pour rétablir le réseau électrique de l'île. 200 agents supplémentaires seront mobilisés et 20 techniciens EDF. En attendant, 200 groupes électrogènes seront mis à disposition. Pour le moment, seuls 48% des Mahorais ont accès à l'électricité. L'objectif est de rétablir complètement le réseau électrique d'ici à fin janvier. Les distributions d'eau potable aussi vont augmenter et une seconde usine de dessalement va être construite. Les vols commerciaux pourront reprendre après-demain, alors que les travaux sur la tour de contrôle de l'aéroport se poursuivent. Concernant les télécommunications, 200 kits Starlink vont être déployés. 40% du territoire reste actuellement sans réseau mobile. François Bayrou annonce aussi l'attribution de prêts garantis par l'État pour les familles mahoraises.
Pour les entreprises, est-ce qu'il va y avoir des aides aussi, Mathilde, au final?
Oui, pour les entreprises aussi. Les cotisations sociales seront suspendues jusqu'au 1er mars. Une aide financière sera débloquée et un dispositif de préservation de l'emploi instauré sans plus de précision. Des mesures qui ne vont pas assez loin pour les chefs d'entreprise. Dans une lettre remise par la CCI de Mayotte au Premier ministre aujourd'hui, il réclame l'exemption d'impôts, de cotisations sociales et patronales pendant 5 ans, de nouveaux PGE pour les entreprises et des mesures non seulement pour protéger mais aussi pour favoriser l'emploi, simplifier le recrutement d'étrangers de pays limitrophes par exemple.
Merci beaucoup Mathilde. Mathilde Chaminade, voilà donc pour l'essentiel des annonces de François Bayrou tout à l'heure du côté de Mayotte. Dans l'actualité ce soir, il y a donc aussi le retour des interrogations autour de Boeing, le crash du 737-800 qui s'est produit ce week-end en Corée a donc fait 179 morts. Les autorités coréennes annoncent que toutes les compagnies nationales qui exploitaient ces appareils les ont cloués pour les inspecter. On en reparlera bien sûr un peu plus tard sur BFM Business. Dans l'actualité à l'étranger toujours, la Russie a promis elle aujourd'hui d'identifier et de poursuivre les personnes responsables de l'autre gros crash aérien survenu mercredi dernier. Cet avion de ligne azéri qui a donc fait 38 victimes en s'écrasant sur le territoire du Kazakhstan. Sinon, puisqu'on parle de la Russie, est-ce qu'il faut s'attendre à un regain de tension sur les prix du gaz en Europe? Vous savez que c'est demain, 31 décembre, qu'expire l'accord qui permettait de faire passer du gaz russe par l'Ukraine depuis quelques années. Beaucoup de pays de l'Europe de l'Est qui en dépendent encore largement sont très inquiets. Raphaël Couder.
Avec l'arrêt de ce contrat d'approvisionnement au 1er janvier, ce sont près de 15 milliards de mètres cubes de gaz qui vont désormais manquer à l'Europe, soit environ 5% de sa consommation totale. Une petite part, certes, les Européens ont beaucoup réduit leur dépendance au gaz russe depuis 2 ans, mais cela va tout de même obliger les pays d'Europe centrale et de l'Est à trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. En premier lieu, l'Autriche, pays qui dépendait encore cet été à 90% de la Russie pour son gaz et qui a mis fin au début du mois à sa relation avec Gazprom. La Moldavie est également en alerte et s'attend à des coupures de courant car 70% de son électricité est produite avec du gaz dans la région séparatiste pro-russe de la Transnistrie. La Hongrie et la Slovaquie, deux pays beaucoup plus soucieux de maintenir une relation avec Moscou, seront aussi affectés dans une moindre mesure. À l'approche de l'échéance, l'incertitude de la situation fait en tout cas monter la pression sur les marchés. Tout en restant loin du pic de 2022, le cours du gaz sur le marché de référence a progressé de 50% depuis depuis le mois de juillet dernier.
Raphaël Couder, à l'étranger, toujours la colère du gouvernement allemand après la tribune publiée hier par Elon Musk dans Die Welt, tribune dans laquelle il réitère son soutien à l'AfD à 2 mois des législatives. Elon Musk tente d'influencer les élections fédérales. Voilà ce qu'a écrit un porte-parole du gouvernement allemand sur X. L'affaire, en tout cas, suscite beaucoup de débats en Allemagne. Vous avez une rédactrice en chef de Die Welt qui a présenté sa démission. On en reparlera avec nos experts tout à l'heure à 18h30. Dans l'actualité des entreprises, Atos a-t-il été victime d'une cyberattaque ? C'est ce qu'affirme, en tout cas, depuis ce week-end, un groupe de hackers qui explique avoir, je cite, « compromis une base de données du groupe ». Atos affirme pour l'instant, au contraire, n'avoir détecté aucun signe de compromission, mais le groupe dit qu'il continue bien sûr à enquêter. Et puis, on finit par se demander si les taxis volants vont vraiment un jour devenir une réalité. On a appris aujourd'hui que l'entreprise allemande Volocopter, qu'on présentait comme un espoir du secteur, on a appris que la société allemande avait déposé le bilan. En Europe, en tout cas, le secteur n'arrive plus à avancer. La montagne, on revient en France, fait son retour en force. Elle a été pénalisée ces dernières années par des conditions météo mauvaises, mais apparemment, cette saison 2024-2025 part très bien. Écoutez, Patrick Provost, spécialiste du sujet, président de l'Observatoire national des stations de montagne.
Les réservations, surtout sur la semaine du jour de l'an, est en bonne progression, presque de 13 points par rapport à l'année dernière. Donc on arrive à des taux de réservation qui avoisinent 90%, 88% exactement. Et donc effectivement, c'est une démonstration un petit peu de l'attrait de la montagne pendant l'hiver et surtout pendant ces fêtes de fin d'année. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une progression des réservations un peu à l'avance. Et puis, disons qu'il y a eu une petite réserve sur le début de saison dû au manque de neige l'année dernière, mais cette année, comme les conditions sont excellentes, les réservations de dernière minute ont bien progressé, donc pour avoir des taux de fréquentation et presque record sur la semaine du jour de l'an.
Voilà, Patrick Provost, président de l'Observatoire national des stations de montagne, qui était avec nous ce matin sur BFM Business, 18h05. On va parler de la French Tech. Pour tirer le bilan d'une année 2024 qui n'aura pas été folichonne pour le secteur, qui a même été éprouvante pour certains grands noms qui ont soit disparu, soit survécu, mais vraiment, vraiment de justesse. Alexis Vallée.
En l'espace d'un an et demi, 129 startups matures ont cessé leur activité selon une étude de la Banque de France. Principale difficulté, la crise mondiale du financement de la tech causée par la hausse des taux d'intérêt. La biotech BioSerenity, le service de scooter électrique CityScoot ou EasyWork, spécialiste de l'intérim, en ont fait les frais. Certaines entreprises ont dû faire face aux tribunaux de commerce comme Insect, le producteur d'aliments à base d'insectes, placé en procédure de sauvegarde depuis septembre dernier, ou Devialet, spécialiste du son, en procédure de conciliation. Finalement sauvée grâce à une levée de fonds de 30 millions d'euros. Mais face au mur de la dette, d'autres ne remontent pas la pente, comme la société d'investissement locatif Mastéos, placée en redressement judiciaire puis rachetée par Novaxia. Plusieurs emblèmes de la French Tech ont connu le même sort. Luco, spécialisé dans l'assurance, a été repris par l'allemand Allianz, ou le spécialiste de la traçabilité Pixo par Ubisolution.
Voilà pour le bilan 2024 de la French Tech. Alexis Vallée avec nous sur BFM Business. Et puis autre bilan, tiens, qu'on peut faire au 30 décembre, c'est celui des meilleures audiences télé. Quelque chose qu'on continue de mesurer en 2024. Et sans surprise, vous le voyez venir gros comme une maison, les Jeux Olympiques dominent très loin le classement des 100 premières audiences de cette année. Éline Lefao.
Une fois n'est pas coutume, le sport a de nouveau offert des audiences en or. 37 places sur les 100 meilleures performances télévisuelles de 2024. Comment ne pas évoquer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui est devenue le programme le plus regardé de toute la télévision française, avec une moyenne de 24 400 000 téléspectateurs. Autre événement phare de cette année, l'Euro de foot et sa demi-finale France-Espagne suivie par 16 millions de personnes. Le sport n'est pourtant pas le seul à briller sur la TNT. La fiction française et ses séries à succès HP et Astrid et Raphaël continuent de séduire. Elles baissent toutefois au classement avec 33 programmes au palmarès des meilleures performances cette année, contre 44 obtenus un an plus tôt. L'information se glisse quant à elle à la troisième place du podium, portée par des événements politiques comme la dissolution de l'Assemblée ou les élections législatives. Le 27 juillet, grâce à l'impulsion des JO, France 2 décroche la meilleure audience de l'info de l'année avec 8 millions de téléspectateurs pour son 20h. A l'inverse, les séries américaines sont les grandes absentes de ce classement. Aucune d'entre elles ne figure dans le top 100.
C'est là qu'on voit que l'époque a changé. Moins de séries américaines dans le top 100. Aline Lefaou avec nous sur BFM Business. 18h08, on fait un point rapide sur Les marchés, le CAC 40 qui, pour cette dernière séance pleine de l'année, termine ce soir en petite baisse, moins 0,57%, 7313 points. Il y aura donc une dernière demi-séance demain jusqu'à 14h et puis ça sera terminé pour l'année 2024 sur les marchés. Wall Street, pendant ce temps, à la mi-séance, les marchés américains qui sont en baisse. L'indice Dow Jones qui perd 0,8%, 42 640, avec une action Boeing qui souffre, qui perd 4-5% en ce moment. Et puis l'indice Nasdaq lui aussi qui se replie, qui s'essouffle, qui perd 1%. 19 512 points, tout ça bien sûr à la mi-séance. 18h09, nos experts arrivent dans un instant. On a beaucoup de choses ce soir. Est-ce qu'on peut espérer un budget assez rapidement cette année en France? Éric Lombard devait commencer à parler avec les partis politiques. On parlera aussi des PGE, apparemment c'est pas l'histoire ancienne. On parlera de cette tribune d'Elon Musk hier dans la presse allemande qui a suscité beaucoup de réactions. Et puis de cet accord qui expire demain. Vous savez, cet accord qui permettait de faire passer du gaz russe via l'Ukraine. Beaucoup de pays en Europe qui s'inquiète, et la confirmation une fois de plus que l'Europe ne parle pas d'une seule voix sur toutes ces questions. Tout ça, plus bien d'autres choses jusqu'à 19h évidemment sur BFM. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h12, ils sont là comme tous les soirs, évidemment, les experts du soir jusqu'à 19h pour refaire l'actu sur BFM Business. Xavier Patrolin est revenu, rebonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Et président d'Albatros Capital, Alexandre Malafaye est avec nous. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Président fondateur du think tank Sinopia, merci d'être avec nous. Léonidas Kalogiropoulos, bien sûr, est avec nous. Léonidas, bonsoir.
Bonsoir.
Président de Médiation et Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci messieurs d'être avec nous ce soir, ce 30 décembre. Encore un peu tôt pour vous présenter mes meilleurs vœux, vous souhaiter une bonne année, mais enfin le cœur y est et on aura l'occasion très vite de le refaire. Allez-vous arriver à réveillonner demain soir 31 décembre sans penser au budget 2025? Alors les ministres, ceux qui habitent Bercy désormais doivent y penser. Vous savez qu'Éric Lombard devait commencer à recevoir les partis politiques aujourd'hui pour en parler. Pas de nouvelles. Aucune nouvelle. On ne sait pas si ces rencontres ont commencé ou pas du côté de Bercy.
Ah, y a une méthode en tout cas.
Si vous voulez, Léonidas, oui.
Écoutez, il y a une méthode.
Recevoir tout le monde, c'est pas la méthode du siècle non plus, quoi. Je veux dire.
Non, mais enfin, vouloir.
C'est nouveau en plus.
Oui.
Vouloir.
Tout le monde, hein. Tout le monde, tous les partis représentés au Parlement. Oui, oui, oui.
Et puis, il y a une arithmétique parlementaire. Elle a ses droits. Et l'arithmétique parlementaire, c'est qu'on parle avec les gens avec lesquels il faut forcément arriver à passer entre les gouttes d'une censure. Donc, c'est une méthode qui n'est pas forcément exactement la même que celle qui a conduit à l'échec des budgets précédents.
Oui. Rappelez-vous Antoine Armand qui très vite exclut le Rassemblement National de l'arc républicain. L'arc ça aussi c'était un très mauvais départ, oui, évidemment. Oui.
Ça n'augurait rien de bon. Alors est-ce que le changement de méthode va permettre d'éviter cet écueil-là? C'est pas écrit. Mais en tout état de cause, il y a l'affichage d'une volonté. D'accord. De trouver un chemin ensemble. Enfin, je pense que c'est une méthode qui s'impose compte tenu de la configuration. D'avoir adopté et d'avoir annoncé,
de faire
c'est pas mal.
Autrement. Donc on va faire un peu de politique politicienne, un petit peu de popole. Voilà, dans votre esprit, est-ce qu'on a un budget? Allez, je crois que François Bayrou s'est donné jusqu'au 14 février, mi-février. Est-ce qu'on peut avoir un budget à cette échéance? Est-ce que vous dites qu'il est tout simplement plus difficile de censurer une deuxième fois un gouvernement, surtout du côté du Rassemblement National? Donc, il va falloir trouver un compromis, de toute façon.
Alors, c'est ce que veut faire le ministre du Budget. De toute façon, là, il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Donc, de fait, il faut avoir composé, trouver un chemin, en effet, fabriquer un compromis. Mais pour y arriver, pour faire quelque chose qui tienne à peu près la route et qui soit défendable et surtout efficace, il va falloir faire un travail de pédagogie phénoménal. C'est pour ça qu'en effet, cette méthode, cette proposition de rencontre, elle est intéressante. On a affaire à quelqu'un qui connaît à peu près les chiffres, ça au moins on peut lui reconnaître le fait qu'il sait compter.
Mais
il connaît l'État, il y a déjà travaillé, donc tout ça, ça joue en sa faveur. Il est plutôt de gauche, donc quelque part il a quand même une sensibilité par rapport à des questions qui sont sociales et donc ça le prédispose bien vis-à-vis d'un ensemble de partis.
Quelle sera sa marge de manœuvre aussi? Parce qu'il est entouré à Bercy par des fidèles des macronistes de la première heure.
Oui, mais dans tous les cas de figure, il faut être réaliste, quoi. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à expliquer aux gens qu'il va recevoir, aux parlementaires qu'il va recevoir, quel est l'état réel du pays, et si on continue à regarder les choses de manière très biaisée ou très ambiguë ou avec toujours les mêmes prismes en disant quand on est à droite effectivement il faut tailler dans les poches de l'État, quand on est à gauche il faut faire les poches des entreprises, si c'est ça la manière de fonctionner et de raisonner in fine et à quoi on va se retrouver, globalement on arrivera à un budget qui ne tiendra pas la route, et alors soit il passera mais ce sera une catastrophe, soit il passera pas et puis effectivement ce sera une catastrophe.
Où serait la véritable catastrophe finalement? Un budget même bancal qui s'apparente à un tuyau percé?
Il faut un budget.
Bon.
Non, mais ils font un budget. Oui. À la limite, il y a même un mauvais budget, mais ils font un budget.
Ah oui, bon, bah là.
Ça dépend. Si c'est un budget qui prévoit des hausses d'impôts massives.
Oui, mais ça semble vous entendre. François Bayrou qui dit qu'on sanctuarise les entreprises quand même. Là.
La période sans budget est une période vraiment totalement négative.
Xavier Patrolin, vous dites quoi? Il faut mieux aux yeux des marchés, parce qu'on raisonne aussi par rapport au marché, il vaut mieux un budget tuyau percé ou pas de budget du tout finalement?
Non, il vaut mieux un budget tuyau percé, mais au fond. Le problème de la situation dans laquelle on est, c'est si on fait une grande négociation, on rencontre tour à tour tous les partis politiques, on va arriver au plus petit commun dénominateur. Si on arrive au plus petit commun dénominateur, ça veut dire que c'est un budget, on va reconduire le budget 2024-2025 avec quelques arrangements à Kouski politique pour que chacun y trouve et justifie le vote pour ou son abstention, mais ça se limitera à ça. Moi je pense que, mais probablement que c'est pas le mandat du ministre de l'économie et des finances, mais il serait important qu'on purge, si j'ose dire, et économiquement, financièrement et politiquement, le problème de la réforme des retraites. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas envisager une politique de financement raisonnable des budgets. Et donc, il faut s'atteler. Et donc, là, on voit bien notre discussion, c'est la question que tu poses, c'est à l'ami François Bayrou a indiqué mi-février. Donc,
oui.
Non, il faut impérativement purger ce problème. L'ensemble des députés, enfin une majorité des députés n'est pas prêt aujourd'hui dans la configuration actuelle, quels que soient les compromis, à voter. Si on lui demandait de voter,
oui.
La réforme des retraites telle qu'elle est passée ne la voterait pas.
Oui,
on a l'ensemble des syndicats de salariés qui sont contre, à l'exception évidemment des syndicats d'entreprise. Et on a des sondages, et votre maison fait des sondages, à peu près 70% de la population française qui est contre. Donc il faut lever ce goulot d'étranglement. Tant qu'on est dans cette configuration politique, on ne peut pas envisager de mettre en place un budget. Or, l'essentiel de nos déficits budgétaires depuis 2-3 ans, enfin depuis 2 ans, viennent en partie d'un déséquilibre sur le financement des retraites. Le financement des retraites n'est toujours pas résolu. Donc, il y a un moment, il faut faire cette opération vérité. Donc là, on va faire du bricolo. Mais l'objectif de limiter le déficit budgétaire à moins ou autour de 5% pour l'année 2025.
Il n'y a plus question de 5%, vous avez vu. Dans la déclaration
y penser. Intrinsèquement, dans la configuration actuelle politique dans laquelle nous sommes, nous dirigeons vers des déficits budgétaires aux alentours de entre 6 et 7%. C'est ça dont on parle. C'est cette mécanique qui est à l'œuvre. Donc, on va bricoler. Mais moi, j'ai peu d'espoir à ce qu'on trouve un budget, à ce qu'un budget soit voté avant le milieu du printemps, voire la fin du printemps.
Je sens pas non plus d'enthousiasme dans votre discours, Alexandre. Hein,
j'en ai pas beaucoup à proposer, malheureusement, parce que je vois.
Non, je parle de cette séance. François Bayrou lui-même a évoqué la mi-février. Voilà.
Oui, non, mais de toute façon, il faut bien qu'il mette des objectifs.
Oui, oui.
Que ce soit sur un objectif de déficit public en disant 5% et un peu plus. À la limite, il vaut mieux viser ça et puis ne pas y arriver plutôt que dire on sera à 7, parce que ça c'est quand même.
Non, mais c'était bien. Lâcher du lest en disant ça ne sera pas 5, c'était bien de le faire.
Voilà, ça c'est sûr, mais ça c'est très évident parce que comme globalement les indicateurs de croissance ne sont pas très bons et que les efforts à faire à la fois pour faire rentrer de l'argent dans les caisses ou pour dégraisser le mammouth comme dirait l'autre pour l'instant ne sont pas engagés, donc on voit bien que la tendance et la pente effectivement est toujours à creuser le déficit, à payer de plus en plus cher la dette. Après la réforme des retraites elle est sur la table, là encore il faudrait partir des réalités, il faut s'appuyer vraiment sur les chiffres, les tendances et les modèles. Si c'est idéologique, on n'y arrivera pas.
C'est
le désastre de la façon de faire de la politique en France. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de s'entendre sur le diagnostic
commun.
Et ça, c'est absolument catastrophique. Fait, quand on fait des projections démographiques, ça au moins, c'est facile.
Non, mais même les faits deviennent discutables. Voilà. Et c'est vrai que pouvoir s'entendre sur les faits, c'est assez dramatique. J'ai moins de pessimisme que vous, mais probablement parce que je dois être mal.
Parce que vous ne seriez plus vous-même dans ces cas-là.
Bon, peut-être, j'en accepte l'augure. Mais je doute quand même devant l'accélération des défaillances d'entreprises. Des chiffres qui sont globalement mauvais sur la totalité des indicateurs.
Oui.
La conscience que les politiques ont de la responsabilité qui est la leur d'avoir plongé le pays dans cette espèce d'intensif. Alors, ils ont beau se renvoyer la balle entre eux, globalement c'est la totalité de l'appareil d'État qui est en train d'être touché. Je pense qu'il y a un moment donné où cette conscience, elle les saisit tous, et que le chemin ne sera pas brillant, on sera probablement au-dessus de 5. Moi, je pense qu'on ne sera pas loin de la mi-février, parce que finalement, une fois qu'on s'est tout dit, et on s'est globalement tout dit, à part le répéter, je ne vois pas très bien où est l'issue.
Un petit moment déjà qu'on se le répète.
Ça fait un certain temps qu'on a tout répété. Oui. Donc, trouver la ligne médiane pour arriver à présenter un truc, s'en débarrasser et passer à autre chose, je pense que c'est l'intérêt collectif.
Oui. Encore une fois, ce n'est pas le juge de paix de se dire, de toute façon, qui va assumer politiquement le poids d'une deuxième dissolution. Quand vous voyez les sondages, l'état d'esprit des Français, est-ce que même le Rassemblement National, même la gauche, le NFP, a envie d'assumer ça? Alors, les Français, on aura le bol, là.
Et surtout, il y a un certain nombre de professions qui en aura le bol. C'est-à-dire qu'on risque d'être rattrapé quand même par la pression qui va être exercée par un certain nombre de corporations, notamment les agriculteurs, mais pas seulement, parce qu'à force de ne pas avoir de budget, pas à force de politique, et forcément, ça a des impacts extrêmement forts. Il y a des attentes concrètes. Alors, il y a, au-delà du budget, il y a un certain nombre de textes sur lesquels il faudrait reprendre des positions. Il n'y a pas que le budget. Il y a toute une série de dispositifs qu'il faut réenclencher. Il y a des choix politiques à faire. C'est-à-dire, on a des segments qui sont quand même en crise. Le logement ne va pas très bien, a priori. La création d'entreprise peut-être repart parce qu'il y a toujours un peu dans ce cher vieux pays, un peu des talents. Mais quand même,
Non, il y a énormément de talents.
Voilà, mais évidemment, mais c'est ça qui fait ce qui reste, que la France reste la France, quoi. Voilà, mais il faudrait un tout petit peu lui donner la chance, quoi.
Davier.
Non, le seul espoir qu'on ait, c'est qu'on sera en 2025. Ah. Donc c'est une chose. Ouais, c'est bizarre. Mais au fond, bloquer un budget 2025 en décembre 2024, c'est une chose. Bloquer un budget 2025 en janvier ou février 2025, c'est une autre chose par rapport à nos concitoyens, justement.
Oui, parce que par rapport à l'image de la responsabilité.
On tournait encore, si j'ose dire, jusqu'au 31 décembre, jusqu'à demain soir, minuit, on tourne sur le budget 2024 qui est passé.
La dernière, c'est en 1980, je le rappelle.
Voilà. Au 1er janvier, à 00h01, on est sur une reconduction d'un douzième du budget 2024. Et là, ça change complètement la donne. On l'a vu d'une certaine façon à propos de Mayotte. On a vu que la première enveloppe qui est décidée, ubi et orbi, c'est totalement marginal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Je rappelle qu'il a fallu quand même en commission des finances, hein, pour la fameuse loi spéciale sur la Nouvelle-Calédonie. Tu me diras, ça n'a rien à voir, mais si, ça, c'est quand même intéressant. Il s'est passé des troubles en Nouvelle-Calédonie, on a tous vu. L'État le Parlement a ouvert une enveloppe de 1 milliard d'euros, dont 700 millions pour financer les forces de l'ordre. Donc 300 uniquement pour la reconstruction. 300 millions pour la reconstruction. Là, à Mayotte, on est sur quelques centaines de milliers d'euros. Certes, toute l'administration, il y a toute une infrastructure publique qui est à l'œuvre, qui marche, je dis pas. Mais en termes de financement, on voit que ça commence à bloquer. Parce qu'il n'y a plus, il y a plus d'argent dans les... Je vais un peu vite en besogne. Mais en tout cas, ça...
Non, vous avez certains politiques qui commencent à exploiter l'affaire en disant, vous voyez ce qu'il va falloir débourser par Mayotte, ce sont des économies qu'il faudra faire a fortiori sur le budget 2025.
Voilà. Donc ça. Oui, ça va obliger probablement à un vote, mais on va faire, ce n'est pas nécessairement rassurant, parce qu'on va faire un plus petit commun dénominateur.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne va pas...
Mais il faut le faire.
Mais ça veut dire qu'on ne va pas traiter...
Plus on veut tenir, moins on fait.
Voilà. Ça veut dire qu'on ne va pas traiter...
C'est vrai.
Ce qui est à l'origine. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette double ambition d'avoir un budget pour 2025 et en même temps de décongestionner ce qui nous handicape depuis que la réforme des retraites a été adoptée sous le mode que l'on connaît et qui, au fond, qui entraîne un pourrissement politique et un pourrissement peut-être même d'une certaine façon économique. Le terme, je le mets là entre guillemets. Et il faut décongestionner ce truc-là.
Mais ça veut dire quoi concrètement?
Ah ben moi je pense qu'il faut renégocier les choses. Il faut une grande conférence de
c'est ce qu'a prévu Bayrou, hein. C'est ce qu'a prévu Bayrou. On discute avec les partenaires sociaux.
Moi je pense. Je vais faire sauter. Mais je pense qu'il faut peut-être
un budget constant. Je ne sais pas très bien quel est.
Alors, mais il faut peut-être ouvrir la voie à un mode de financement par capitalisation.
Oh là là.
Et non mais on ouvre. Non mais certainement. Oui, mais si on a une vision comptable. Si on a une vision, peut-être. Mais peu importe. On adresse le problème. Si on a une vision comptable, si on présente vraiment la structure déficitaire. Enfin, il faut quand même que les Français sachent que sur 100 euros versés par notre système de retraite, il y en a 72, 73 qui sont financés.
Oui.
Le reste, c'est de la dette.
Oui.
Et c'est de la dette qui vient alimenter l'endettement public.
Pardonnez-moi, simplement, ça fait tellement d'années que ce débat est ouvert et que le fait concret, factuel, n'a pas été encore aduit, que je ne suis pas totalement certain que dans la configuration politique actuelle, ça soit le
mot. Mon cher Léonie, je suis parfois interpellé dans la rue, tu vois, et les gens me parlent des retraites, me parlent que d'une seule. Ça n'est jamais, c'est rarement arrivé, et les gens ne me parlent que d'un seul truc. Est-ce que les retraites vont être payées?
Oui, mais
donc je pense que c'est une partie de la population, mais ça veut quand même dire que ce problème diffuse. Alors, et donc il faut pas le résoudre de manière anxiogène. Il faut simplement profiter de l'instant politique pour dire est-ce qu'on peut envisager pour réécrire un texte avec une option de financement qui soit solide.
Est-ce que le climat politique est assez apaisé pour ce faire? Ça reste évidemment une question. On a 3 minutes avant la pause pour parler de ce chiffre que donnaient nos confrères des Échos ce matin, qui nous dit les PGE hérités de l'ère Covid sont pas une histoire qui appartient au passé. Il y a encore quasiment 40 milliards d'euros rembourser d'ici 2026.
Oui, mais c'est
un quart des 145 milliards d'euros qui avaient été versés au plus fort de la crise.
Sur 145, enfin, moi,
ça vous inquiète, ça, Léonidas, ou pas, quand même?
C'est pas que ça m'inquiète. D'abord, le bilan des PGE est un bon bilan financier.
Oui, oui. Alors, ce sont bons bilans. C'est pas le problème.
Non, mais c'est un bon bilan financier et globalement, on est quoi, 4 ans se sont écoulés.
Ouais.
Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, cette affaire. Alors maintenant, l'économie se tend, les situations sont plus compliquées, mais les montants par entreprise sont quand même plus réduits. Ça veut dire que s'il devait y avoir un taux plus important de défaillance, ça serait sur des montants qui sont plus les gros montants sur lesquels il pouvait y avoir un risque fort. Donc, je dis pas que tout ça n'est pas problématique, il y a des tensions, mais je pense que globalement...
Les grandes entreprises, Alexandre, les grandes entreprises ont payé.
Ont payé, c'est clair.
Oui, oui, oui,
après,
oui.
Le reste est assez dilué. Il y aura sans doute un taux de sinistralité qui va faire qu'à la fin, ça va coûter un peu, ça coûtera sans doute quelques milliards.
Plus, peut-être un peu plus que prévu quand on voyait les chiffres de défaillance d'entreprise, l'incertitude politique qui joue aussi, peut-être, qui va jouer sur tout ça.
Ils anticipent en effet une augmentation de la sinistralité et donc sans doute un coût plus élevé à la fin. Mais malgré tout, par rapport à ce que ça aura évité ou rapporté, c'était entre guillemets un bon investissement. Quoi.
C'est un très très bon bilan.
Ah, mais personne n'a dit le contraire, c'est pas ça. Mais
globalement, c'est d'autant plus un bon bilan que ça finit, me semble-t-il, par interpréter sur le modèle. Je pense que le PGE est un modèle qui peut être intéressant pour des situations. D'ailleurs, on est en train de l'envisager
pour l'État,
pour Mayotte, de manière. Mais globalement, pour d'autres sujets, la garantie de l'État qui vient soutenir un investissement
qui est risque de l'effet d'aubaine. Là, c'est risque de l'effet d'aubaine. Là.
Non, parce que la garantie de l'État sur le PGE a été une garantie à 90%. Oui. On n'est pas forcé de garantir à 90%. On pourrait garantir à 60%, par exemple, des investissements dans l'industrie. Et à ce moment-là, lever un certain nombre d'obstacles qui peuvent exister dans le fait de mobiliser tout ce que les Français ont autorisé.
Ce qui est inquiétant comme dans ces chiffres, pardon, juste d'un mot, c'est que dans les entreprises, parmi les entreprises qu'on choisit, enfin choisi ou pas, d'aller jusqu'en 2026 pour rembourser leur PGE, vous avez beaucoup d'entreprises qui opéraient dans des secteurs en tension déjà en 2020, que ce soit le commerce, la distribution, l'hôtellerie-restauration, l'immobilier évidemment.
Ceux qui ont fait la fuite en avant, de toute façon, finiront par être par la vague, ça c'est clair. Et puis après, ceux qui peuvent tenir, éventuellement. Refinanceront, trouveront un échelonnement, se mettront éventuellement, pour certains d'entre eux, sous protection de la justice, histoire de rebondir. Mais je dirais, le risque reste, à mon avis, relatif par rapport à ce qui a encore à recouvrer.
Et globalement, le risque est assez limité par rapport à ce, effectivement, comme vous le disiez, par rapport à ce qu'on a réussi à sauver dans l'économie dans cette crise.
Vous aviez pas de problème.
Moi, je trouve que le PGE a été très mal calibré. Il a été très efficace, comme l'a dit Léonidas, parce qu'il a été mis en œuvre très rapidement, très puissant, tout ce que vous voulez. Mais il a une durée beaucoup trop courte.
Et oui.
Beaucoup trop courte.
Certains disent qu'il aurait fallu 10 ans.
Oui, c'est ça. Nos voisins allemands sont à 15, les Américains peuvent être à 30. Donc, on ne fait pas face à une chute d'activité qui a un caractère totalement exceptionnel, puisqu'une pandémie a plus ample à informer, on en a une fois tous les siècles, avec une duration de prêt, de garantie de 5 ans. Ça n'a pas de sens.
Et on a déjà repoussé les échéances, au passage.
Oui, d'une seule année, parce que derrière est venue la crise énergétique. Mais prends le boulanger du coin, qui a pas de chiffre d'affaires pendant 3 mois, qui a ce PGE, et qui va, juste derrière, avoir une facture électrique qui va être multipliée par 2, par 3, parce que il y a eu la crise russo-ukrainienne, et qui doit rembourser le PGE. Ben, qu'est-ce qu'il fait? S'il a en même temps, il a un chiffre d'affaires et des banquiers qui commencent à lui dire, écoute mon petit gars, vu ton profil, on arrête de prêter, parce que là, c'est Alexandre, faut regarder les réponses qui sont faites.
Bien sûr,
les petites et moyennes entreprises ont énormément de mal à trouver de la jointure en termes bancaires. Le système bancaire ne joue pas le jeu. J'ai pas terminé, Léo Dizas.
Non, je
dis pas de manière agressive, mais c'est parce que je voulais terminer mon coup. Et donc, je pense qu'il y a un mauvais calibrage. Et ces 40 milliards, moi, me font peur, parce qu'à mon avis, c'est 40 milliards à risque. C'est pas 40 milliards. Le taux de sinistralité va être élevé. Et quand j'ai regardé, j'ai fait un petit calcul à partir des données de marge de l'INSEE. J'ai regardé, il y a 8 secteurs. J'ai regardé les marges. Et j'ai regardé un peu ce que ça impliquait un remboursement dans l'année. Eh bien, vous avez 4 sur les 8 secteurs, macro secteurs de l'INSEE, 4 secteurs qui passent en négatif ou en les. Alors, c'est en médian. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui sont au-dessus, mais il y a des sociétés qui sont. Donc, à mon avis, en termes de sinistralité, c'est important. Donc, moi, j'aurais plutôt vu une rallonge. Il nous reste 40. Alors, évidemment, ça serait un avantage. Mais ouais, parce que c'est. On doit mettre des fonds propres. Là, ce dont on parle, c'est une perte d'activité. Une perte d'activité, c'est le risque ultime. Là, pour une perte d'activité, on met pas des prêts. On met des quasi-fonds propres. Et moi, je suis désolé, un PGE de 5 ans, c'est pas un quasi-fonds propre. Ça colle pas. Donc là, à mon avis, il y a une erreur.
Les pays, à l'air de dire, pour l'instant, le rythme suit son cours, qu'on n'est pas forcément en retard, et on en reparlera en espérant évidemment que les choses se passeront le mieux. Allez, 18h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h35, on continue avec nos experts. On est ensemble jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. On est toujours avec Léonidas Kalogiropoulos, avec Alexandre Malafaye, avec Xavier Patrolin. On va parler, je vous avais promis qu'on en parlerait, de cette tribune qui fait polémique en Allemagne. Vous savez, cette tribune d'Elon Musk qui a réaffirmé hier son soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, dans une tribune publiée dans Welt am Sonntag, qui est l'édition dominicale de Die Welt. Alors, morceau choisi de cette tribune. La classification de l'AfD à l'extrême droite est clairement fausse. L'AfD est la dernière lueur d'espoir pour ce pays. Musk, qui salue la politique d'immigration contrôlée du parti AfD, ses objectifs de réduire les impôts, de déréglementer le marché, voilà ce que dit en gros Elon Musk. On va en parler, puis je vous demanderai votre avis après, bien sûr, avec Stéphane Seidendorf, qui est avec nous par visio. Bonsoir monsieur Seidendorf, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Est-ce que cette tribune, on a lu beaucoup de réactions du côté de la presse allemande, je rappelle qu'il y a une rédactrice en chef du Die Welt qui a démissionné aujourd'hui. Cette tribune met le monde des médias en émoi en Allemagne. Est-ce que ça met aussi l'opinion publique en émoi, ce qu'a écrit Elon Musk hier dans la presse allemande?
Il faut pas oublier que nous sommes un week-end de vacances entre les fêtes et donc c'est premièrement un phénomène médiatique. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous les dents. Alors ça venait très bien d'avoir cette polémique pour l'instant un peu médiatique. Fallait-il ou fallait-il pas publier cette tribune? Une question déontologique. Et vous avez très bien dit, la rédactrice en charge des pages débat, elle a démissionné suite à la décision de la rédaction en chef de publier cette tribune. Donc c'était d'abord ça, mais n'oublions pas que l'Allemagne actuellement est en campagne électorale, officiellement entrée en campagne électorale pour des élections le 23 février. Donc ça ira très vite, ça sera une campagne courte et d'après tout ce qu'on peut déjà dire, violente, avec des choix assez fondamentaux. Et donc ça devient aussi un débat politique.
Est-ce que vous dites que Musk, qui fait la promotion, c'est la deuxième fois en une dizaine de jours, est-ce que de l'AfD, est-ce que vous dites que c'est une bonne publicité, c'est une bonne chose pour l'AfD finalement, le soutien d'Elon Musk?
En tout cas, cette tribune, elle montre déjà que Musk, il connaît pas très bien l'AfD et qu'il s'est pas très bien renseigné sur les positions de l'AfD, puisque tout ce qu'il y a dedans, c'est à peu près faux. Il n'y a pas de proposition concrète de l'AfD comment mener une politique de migration et d'autres choses encore. Donc, Musk, il connaît pas très bien. C'est un texte assez banal, mais ça pourrait même retomber sur lui, puisque maintenant, il est très évident, très clair pour toute l'Allemagne, pour les acteurs médiatiques, pour le débat public, que ce serait une campagne sous observation et sous influence étrangère, que ce soit évidemment de Musk, mais aussi de Poutine et des services russes qui essayent déjà d'influencer dans cette campagne.
Ouais. Le gouvernement allemand lui-même a réagi. Il y a un porte-parole qui a publié un message sur X, justement la plateforme d'Elon Musk, pour accuser à demi-mot Elon Musk de faire de l'ingérence dans cette campagne électorale allemande.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, le chancelier, il a fait comprendre qu'il n'allait pas commenter une décision d'un média quelconque de publier une tribune ou pas. Donc, c'est pas son job, mais quand même, son porte-parole était obligé ce matin d'expliquer qu'on voyait ça comme une ingérence. Il faut pas oublier que ce même gouvernement de M. Scholz avait aussi influencé ou contribué au débat, à la campagne électorale américaine, en choisissant son camp clairement contre Trump et contre Musk.
Merci beaucoup Stéphane Seydendorf, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur adjoint, je rappelle, de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci d'avoir été avec nous. C'est un message que Musk, enfin il tendait Musk-Trump, envoie pas seulement à l'Allemagne, à toute l'Europe, dont on veut fracturer l'unité autant que possible. C'est ça finalement le message de fond.
Lui, il soutient les vainqueurs. Hein. Il a choisi Trump, Trump a gagné. Je ne dis pas que l'AFD va gagner, mais ce qui est intéressant, c'est que s'il l'a fait avec l'Allemagne, il le refera avec la France. Les Américains ont l'intention sans doute effectivement d'aller dans cette
logique. Oui, c'est un avant-goût de ce qui nous attend en France dans quelques mois.
Il n'y a pas de raison pour qu'ils ne fassent pas la même chose, puisqu'en fait, ils vont soutenir tous ceux qui sont sur cette même ligne. Ils sont en harmonie avec Milési, ils aiment bien ce que fait Mme Meloni. En fait, il faut globalement avoir une politique qui est anti-immigration. Alors, on retrouve bien les critères de Trump. Moins de dépenses publiques, on les retrouve bien, et moins d'impôts. Et l'AFD, apparemment, d'après Musk, coche ces cases-là, l'idéologie, il s'en fout. Musk, l'important pour lui, c'est de soutenir ce qui est bon pour le business. Sa seule idéologie, c'est ça. Donc on est face à des changements de modèle, en tout cas sur des approches politiques, qui sont très, très, très lourdes de conséquences. Oui. Évidemment, c'est ce qui fait surtout interagir tout le monde. Mais lui, il s'en fout, parce que lui, il parle au peuple. Il parle pas aux appareils politiques, il parle pas aux médias, il parle pas aux observateurs. Il parle au plus grand nombre. Mais ce qui fait bien sûr interagir, c'est de dire... Ah, ça y est, c'est vraiment ingérence étrangère, mais à la limite, c'est pas grave, on est dans un monde mondialisé, avec X, il parle à qui il veut, avec les médias, il parle à qui il veut, et en plus, il est publié, donc il a raison de jouer sa partie.
Je rappelle,
après, c'est ça peut être dévastateur.
Je rappelle, puisque vous parlez de Mélanie, que Mélanie, Orban, Marine Le Pen ont été invités à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain à Washington. Oui, Leonidas, oui, comment vous...
Moi, je trouve tout de même, d'abord, qu'on constate à quel point on est...
Est-ce qu'il faut faire une montagne, pardon, de... C'est Elon Musk, enfin, je veux dire, ça, ce qu'il dit n'engage que lui.
Non, mais... Enfin, ça n'engage que lui. Il a l'un des réseaux sociaux les plus puissants du monde. Ça veut dire qu'on est avec un outil qui a totalement mondialisé la capacité à avoir un média sur la planète. Enfin, c'est pas n'importe quel chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise d'un super média qui fait parler de lui à peu près quotidiennement sur tous les sujets et qui vient imprimer son label.
Il perd du monde. Il perd des
abonnés. Oui, il perd du monde.
Il perd des sponsors, des annonceurs.
Il peut en perdre de plus en plus. Mais on a une comparaison que votre commentateur germanique faisait à juste titre. On a les influences qui viennent de Poutine, on a les influences qui viennent des États-Unis. L'Europe est au milieu de cette prise en étau. Et je pense que c'est intéressant aussi du point de vue du rôle des entrepreneurs dans le débat public. Moi, je défends énormément l'intervention des entrepreneurs dans le débat public, mais pour faire du politique et pas de la politique. Le rôle des entrepreneurs, c'est de mettre en avant... Comment, on le fera tout à l'heure peut-être en fin d'émission, comment les entreprises apportent des solutions à des problématiques d'intérêt général. C'est une autre manière de contribuer au débat politique que de vouloir une taxe nouvelle, une loi nouvelle, une norme nouvelle. Mais de venir avec cette force de frappe, venir donner une sorte d'onction à l'un des candidats dans une élection, c'est une ingérence démocratique qui me semble devoir nous interpeller sur de nouvelles régulations que l'on devrait avoir. D'ailleurs, il y a ces régulations qui existent. Le DSA plus exactement, est exactement prévu pour ce type d'intervention. Oui. Probablement, il y aura des interventions qui viendront le réguler un peu.
Xavier Patrolin.
Non. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait avoir cette image inverse, c'est-à-dire d'un chef d'entreprise européen qui n'existe pas, première ou deuxième, troisième fortune, prenons Bernard Arnault, qui donnerait un interview au Washington Post sur l'état de la société américaine et sur le choix des prochaines élections, c'est-à-dire, enfin, supposons que cette interview ait eu lieu au cours de cet été, il aurait dit, par exemple, ça aurait probablement provoqué un énorme tollé dans la presse américaine.
C'est vrai.
Donc voilà, donc c'est le caractère iconoclaste. Par contre, moi j'ai pas lu, je parle pas l'allemand, j'ai pas lu cette interview. Mais par contre, ce que dit Musk, ce que j'en ai vu dans la presse ce matin, il dit des choses assez justes malgré tout. Le modèle économique allemand Et la société allemande.
Ah, si, ça, oui, ça va pas lui.
Et vraiment, est en crise. Alors, au bord de l'effondrement, c'est peut-être un exercice de style. Il pousse un peu loin le bouchon, mais il y a une crise vraiment très profonde qui touche la société allemande. Alors, le dire après l'attentat qui a eu lieu, il y a d'un manifestement partisan de l'AFD, c'est quand même maladroit de sa part. Hein. Donc là, il se disperse un peu. Mais bon, malgré tout, son analyse est assez fondée parce qu'il fait un parallèle. De son point de vue, entre ce qui touche la société américaine et ce qui touche les sociétés européennes. Et ce parallèle est juste. C'est au fond la dégradation de la classe moyenne, des classes moyennes. Ce phénomène est multipasse des deux rives de l'Atlantique. Et il touche profondément les... Et donc les classes moyennes en Europe, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne, c'est évidemment le cas en France. Ça devient le cas en Allemagne. On a vu des choses assez étonnantes au cours de l'année 2024. On a vu des manifestations d'agriculteurs qu'on n'avait jamais vues depuis très longtemps. On a vu des mêmes choses aux Pays-Bas. Et donc, il se passe des choses très profondes. Donc, il y a une crise sociétale. Il faut parler des entrepreneurs. Tu as raison, Léonidas. Mais il faut parler de la société.
Mais pardon, on peut parler de la société et avoir une vision de la société sans pour autant dire qu'il faut aller voter à l'AFD.
Bien sûr.
L'analyse, elle peut avoir sa pertinence. Et en tant qu'entrepreneur, il y a
justement, peut-être des choses intéressantes. C'est ce que je disais. Son analyse, le fond, pas le commentaire, la conclusion, on peut en discuter. Mais l'analyse de fond est juste. Et je trouve qu'elle n'occupe pas assez le débat en Europe et pas assez le débat français. Parler de ce qui se passe dans la société, le fait qu'il y a une forme d'apartheid, de partition des sociétés.
Sentiment déclassement des classes moyennes.
Oui, et on l'a vu historiquement, on l'a vu au cours du XXe siècle en Europe. Oui. Et la montée du nazisme, particulièrement en Allemagne, a lieu dans l'entre-deux-guerres, a lieu et a une phase d'accélération au moment de la crise de 1929.
Le parallèle n'est pas sans pertinence. On pourrait presque imaginer un Musk faisant la même analyse dans les années 30
Merci, Léonie,
et 10 ans. Et d'ailleurs, parti qui est candidat, c'est le national.
C'est la limite du propos de Musk. Je suis d'accord avec toi.
Mais l'analyse,
pourtant, son propos est dangereux pour cette raison-là.
Absolument.
Parce qu'il y a une base, il y a un fond, il y a un doute très profond qui habite nos concitoyens.
Alexandre.
Pardon, mais il n'y a pas qu'un doute. Il y a quand même le constat de l'échec d'un certain modèle de gouvernance, d'une certaine façon de faire de la politique. On parlait tout à l'heure de quoi ? On parlait du fait qu'on n'a pas de budget, qu'on a des déficits dans tous les sens, qu'on a des systèmes qui ne sont pas équilibrés. C'est-à-dire, les Allemands ont les mêmes problèmes, on a des modèles économiques qui sont à bout de souffle, on a fait des sociétés qui sont des sociétés qui bannissent le risque, si je puis dire, en tout cas au sens large du terme. Voilà, et on voit bien que tout ça ne marche plus, ils s'appuient là-dessus. Si Trump arrive aux États-Unis, c'est qu'il y a effectivement cette classe moyenne sacrifiée, il y a des évolutions sociétales qui se vont trop vite, qui ne sont pas comprises. Je reviens au sondage dont on a eu la chance de parler sur votre antenne la semaine dernière, ou sur les Français et leur rapport personnel au changement. On voit que 84% des Français disent subir le changement. Voilà. Près de 90% d'entre eux se disent ni protégés, ni respectés, ni écoutés. Et ils n'ont pas d'avenir, et ils pensent qu'en plus les gens qui nous dirigent ne font rien pour unir la nation. Comment voulez-vous qu'on donne du crédit à ces gens qui sont aux affaires aujourd'hui, en France, en Allemagne ou ailleurs? Donc on cherche des alternatives. Le peuple qui n'a qu'un élément pour s'en sortir, à défaut de prendre le Capitole ou de mettre un gilet jaune, c'est de voter. Donc ils disent tous ceux-là sont disqualifiés. Et en plus, on a des gens qui ont super bien réussi, qui viennent nous expliquer qu'on va peut-être y arriver en étant un peu plus pragmatique.
Mais c'est
peut-être très simpliste. Mais peut-être qu'en effet, c'est aussi ça qu'il faut traiter en profondeur si on veut éviter les catastrophes politiques.
Non, mais je ne dis pas que l'on n'a pas des problèmes. On a des problèmes immenses à résoudre. Mais je dis simplement que une tribune comme celle-là et cette manière d'intervenir avec son outil quotidien sur X, c'est plus, me semble-t-il, une manière de mettre de l'huile sur le feu, et les crises, on en a. L'Europe a connu des crises.
C'est clairement le but.
Et c'est clairement le but.
Mais il me semble que Mme Merkel était venue soutenir M. Macron à un certain moment pendant sa campagne électorale. On va dire, les ingérences ou les influences des uns, des autres, pour se soutenir à des moments où on a besoin d'un coup de main, c'est pas...
Oui, mais je ne mets pas...
Ça n'a rien de totalement nouveau.
Je ne mets pas du tout, Madame, la chancelière allemande au même niveau que...
Oui, mais c'est le principe. Je parle du principe.
Mais le fait est que d'être venu faire le constat d'une crise profonde dans la société allemande pour venir dire, et d'ailleurs il y en a un qui est pas mauvais, c'est l'AFD, je suis désolé, je trouve que ça ressemble véritablement au pire choix qui pouvait être fait.
Il joue la partie à une échelle mondiale, ce qui n'est pas le cas des Européens.
Oui, mais ce qui est
très intéressant, c'est qu'au fond, le modèle allemand, c'est le modèle de la coalition. et la coalition sous le règne Angela Merkel, un règne de plus de 5000 jours, hein, c'est, oui, c'est énorme, hein, à l'aune de la vitesse que passent nos premiers ministres en France, hein, c'est à peine 3 mois. Hein. Donc là, c'est là-bas, c'est quasiment une dizaine. Angela Merkel, c'est méchant. Le problème de la coalition, c'est que la coalition dirige vers le plus petit, parfois le plus petit commun dénominateur, et donne un levier à un certain parti. Et en l'occurrence, a donné un levier terrible, enfin terrible, c'est de mon point de vue.
Aux extrêmes.
Non, pas aux extrêmes. Pour l'instant, pas aux extrêmes. A donné un levier très puissant aux Verts allemands. Et toute la politique énergétique, toute une série de choix, la voiture thermique dont on arrête de fabriquer, la désindustrialisation qui est en œuvre actuellement et que ressentent à ce qui est en train de se passer chez Volkswagen, est quelque chose de copernicien pour les points. Oui. Hein, qu'on ferme trois usines. Il y a des choses profondes qui sont en train de toucher la société allemande. Donc ça, oui, ça pose question. Et donc, évidemment, Elon Musk, il arrive là-dessus comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et il tape cette régulation politique. Et je dis pas qu'il a raison, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais
oui, enfin, je rejoins totalement l'analyse de Guillaume sur le fait que c'est totalement délibéré pour nous diviser,
qu'on puisse y répondre. Et qu'il puisse y avoir une personnalité, ou qu'il puisse y avoir une réponse politique. Et pour l'instant, on ne la voit pas.
C'est une question de personnel politique.
Et je rebondis sur un point que vous évoquiez, juste pour clore peut-être ce chapitre, c'est-à-dire que la proportionnelle dont on nous parle beaucoup et qu'on annonce pour la France, on devrait réfléchir vraiment à deux fois avant de la mettre en œuvre, parce que je pense qu'en fait, c'est la pire des solutions par rapport aux mots politiques qu'on a aujourd'hui à résoudre.
Bien, 5 minutes encore avant vos avis du soir pour parler un petit peu de ce qui va arriver demain. Vous savez que c'est demain qu'expire. On en a parlé tout à l'heure, on en reparlera demain sans doute. Cet accord qui permettait depuis 2019 de faire passer du gaz russe par l'Ukraine, cet accord expire demain, 31 décembre, enfin au 1er janvier. Donc il y a 5% de la consommation totale de gaz de l'Europe qui va passer à la trappe. Alors 5% en moyenne, mais vous avez beaucoup de pays qui dépendent encore largement de ce gaz russe. L'Autriche, la Moldavie notamment, la Hongrie, la Slovaquie, tout ça nous montre quoi, une fois de plus, que l'Europe n'est pas capable de parler d'une seule voix sur ces questions énergétiques en 2024. Voilà.
Oui.
Voilà comment ça va se passer.
Enfin, il y a un certain nombre de solutions qui ont été trouvées. Pardon, mais enfin, vous avez raison, Guillaume, sur le fait qu'on est en train de constater la veille de l'échéance qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour trouver les 5% qui restent.
Et qu'on achète aussi du gaz russe encore en France aussi, au passage.
Absolument.
Sur
notre capacité à montrer les ergots face à Poutine, alors qu'on a encore besoin de son gaz. Bon, il y a quand même des alternatives. Alors, c'est vrai que c'est très, très frustrant de voir que les alternatives, c'est en grande partie du GNL américain.
Oui.
Et ce qui nous remet dans la position qu'on évoquait tout à l'heure, d'être en tenaille entre les deux grandes puissances, et on est au milieu. Maintenant, on a un allié qui est la Norvège, qui nous aide énormément sur la possibilité de nous échapper de cette double contrainte. On n'est pas allé au bout de l'exercice. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on soit à quelques heures de l'échéance et que l'on ne sache pas encore exactement comment ça sera réglé. Alors, ce qui nous sauve...
L'Ukraine a reçu ses premières livraisons réserves, de GNL américain aujourd'hui.
Absolument. Mais que les réserves sont pleines, et donc les cuves sont pleines, donc on est capable de remplacer le gaz russe qui ne passerait pas demain matin. Comment on tient l'année ? Ça reste à...
On est toujours censé se passer définitivement des énergies fossiles russes d'ici 2027. Pour l'instant, l'échéance, elle est fixée à 2027. Xavier,
Pour moi,
il peut se passer tellement de choses.
Je suis très constant dans mon analyse. Je pense que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, tout simplement parce que l'Allemagne a fait un choix depuis très longue date. Au fond, la révolution industrielle allemande s'est toujours adossée sur la plateforme énergétique russe depuis la fin du 19e, et elle a amplifié le phénomène en sortant du nucléaire après Fukushima. Et donc, l'Allemagne s'est vécue, et les Verts, les coalitions social-démocrates, d'ailleurs une partie peut-être de la classe politique allemande est relativement corrompue. On peut le dire aussi sans injurier cette classe politique. A choisi d'être un hub énergétique et un hub gazier. Alors évidemment, les événements du 25 février 2022 ont changé complètement la donne. Ils les prennent à revers, donc c'est la stratégie du cheval de Troie. Et on n'a pas de réponse. Et en plus, les Français et les Allemands, le fameux couple franco-allemand qui n'a jamais vraiment existé, mais supposons qu'il ait existé, et en tout cas du point de vue énergétique, il n'existe pas. Parce que l'Allemagne n'a qu'une obsession, c'est nous savonner la planche sur le nucléaire. Donc si à un moment on n'a pas un discours de vérité, regarde ce qui est en train de se passer en Suède. La première ministre, la Suède, 10 millions d'habitants, est en train de dire aux Suédois, si vous payez la facture d'énergie deux fois plus cher quand vous prenez votre bain, votre douche, c'est grâce aux Allemands.
Parce que les Allemands exportent les prix énergétiques, et exportent leur collapse énergétique, l'exportent sur tout le reste de l'Europe. Donc oui, il faut qu'on ait une négociation claire, ferme et affirmée avec notre partenaire allemand pour repenser notre système énergétique et notamment ses sources d'énergie. Et l'éolien et le solaire, c'est évidemment pas la solution. Parce que quand il n'y a pas de vent, je sais pas si tu as regardé tout récemment les prix de l'électricité, il y avait plein de nuages en Europe, il n'y avait pas de vent, donc qu'est-ce qui s'est passé, y compris en Espagne? Eh bien, les prix de l'électricité ont explosé, tout simplement parce que les éoliennes ne produisaient pas et le photovoltaïque ne produisait rien. Et donc, on tapait dans le nucléaire, dans le gaz et dans le charbon. Donc là, oui, on a un problème.
Alexandre, pour finir.
Non, mais ce qui est triste, c'est l'absence totale de cohérence et de stratégie sur ces grands sujets stratégiques pour un continent. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à s'entendre, chacun, en effet, fait ce qu'il a envie de faire dans son coin. On a fabriqué des dépendances, on a fait des choix stratégiques, on n'a pas fait les mêmes et on paye les conséquences de ce qu'on a voulu, mais après tout ça avec un niveau d'ambiguïté et d'inconséquence délirante. C'est-à-dire quand on dit d'un côté effectivement 2027 c'est le coup près, on arrête effectivement les exportations, les importations d'énergie fossile russe, mais on a quand même l'ambiguïté ou l'hypocrisie d'être quand même de pas non plus mettre de sanctions sur le gaz, parce que
on a quand même besoin.
C'est quand même absolument invraisemblable d'être capable de dire bon alors le charbon on va le taxer, on met des sanctions, le pétrole aussi. Tout ça ne ressemble à rien. C'est vraiment la preuve par A plus B que on est dans une impasse politique sur ces grands sujets-là, et donc on va continuer à le payer cher.
Et puis tout le monde a le temps de se rabibocher d'ici 2027, c'est quand même dans deux ans, et parce que c'est beaucoup de choses d'ici là.
Soyons optimistes.
Absolument. Allez, 18h54, il reste 3 minutes, c'est l'extra time comme tous les soirs, vos avis du soir sur 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur, ça c'est laissé bien sûr à votre discrétion. Qui va commencer, Xavier? Allez, que je vois
sur
le petit écran.
J'ai sorti mon... Là, il faut quasiment un prompteur. Allez, non, mais c'est surtout Jimmy Carter nous a quittés la nuit passée, et j'ai appris ce matin, et donc j'ai trouvé que c'était tout à fait quelque chose que j'ignorais dans sa bibliographie, si j'ose dire. C'est qu'il avait été l'un des plus jeunes lieutenants de vaisseau de la Navy américaine, l'un des plus brillants. Et en 1952, à l'âge de 28 ans, alors qu'il était promis au commandement du plus gros sous-marin nucléaire de l'époque, parce que c'était un scientifique, il a été envoyé de toute urgence au Canada pour résoudre un problème sur une centrale nucléaire canadienne. Et donc, il a été irradié avec une équipe de 20 gars. Ils ont répété pendant plusieurs mois. Ils sont allés dans une cuve, donc c'était avant Tchernobyl. Et ils ont réussi à sauver, à éviter cet accident nucléaire. Il a été irradié. Les médecins lui ont dit que jamais plus il n'aurait d'enfants et qu'il ne vivrait pas vieux. Il a vécu jusqu'à 100 ans. Il a pu avoir 3 enfants. Mais ce qu'il faut que tu saches, alors c'est un point de détail, c'est que dans ses urines, il y avait un taux de radioactivité qui était 1000 fois supérieur à la moyenne. Tu te rends compte?
Comme quoi.
Et au bout de 10 ans, ça c'est la médecine. Les connaissances qu'on avait à l'époque étaient très faibles, et ça s'est évincé d'une certaine façon. Et il a abandonné sa carrière brillante, qui était dans l'US Navy, pour faire une carrière politique.
Et ben voilà pour cette
histoire. Donc Jimmy Carter, c'était pas uniquement un planteur de cacahuètes.
Non, il n'a pas été
un esprit particulièrement. Voilà. Et d'où peut-être son approche pacifiste.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. D'où l'approche qui a suivi son mandat. Alexandre, 30 secondes, allez.
Un coup de cœur pour Orano qui vient de signer un contrat d'exploitation d'uranium avec la Mongolie. Ouais. On peut imaginer que le déplacement du président de la République, qui sur les questions économiques n'a pas que des défauts, a été effectivement déclencheur de ce contrat, qui est un beau contrat, parce qu'a priori on va investir avec Orano près de 2 milliards d'euros sur une exploitation qui va durer jusqu'en 2060, avec un chiffre d'affaires estimé de à près 13 ou 14 milliards. Enfin voilà, ça crée des sources d'approvisionnement qui viennent compenser ce qu'on perd avec l'Afrique. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. La France a encore en effet des talents, il faut le dire. Donc bravo à Orano pour ce contrat.
C'est de la souveraineté, absolument. Coup de cœur d'Alexandre. Léonidas, 30 secondes.
Eh bien, dans le même sens, je voudrais tirer un coup de chapeau à Dioxil, qui est une entreprise assez jeune, mais qui a déjà levé une quarantaine de millions d'euros pour développer ce qui est un électrolyseur qui permet de changer le CO2 en éthylène pour l'industrie. Et c'est absolument extraordinaire parce que potentiellement, c'est 1 à 2% du CO2 qui est émis par la planète qui peut être résorbé en transformant le CO2 en une autre substance qui est l'éthylène, qui est utilisée dans toute l'industrie. Et donc on peut le faire dans une même industrie, transformer son CO2 en éthylène pour qu'elle l'utilise elle-même. Donc c'est extraordinaire. Et je veux souligner cet exemple d'une entreprise qui apporte une solution, parce que sur la baisse du CO2, on peut avoir des débats éternels au Parlement sur quelle taxe poser, quelle norme, quelle régulation, quelle loi, sur une problématique pour laquelle personne ne songe à aller interroger qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire.
Oui.
Et je pense que ça illustre très très bien comment on peut non pas avoir des politiques comme Musk qui viennent faire de la politique, mais viennent faire du politique en apportant des solutions concrètes aux problèmes d'intérêt général.
On redonne le nom de la société.
Bien entendu, il s'appelle Dioxycle, et donc le fait de remettre dans un cycle le dioxyde...
Il faudra qu'il vienne nous raconter ça sur BFM Business, ça serait encore mieux, effectivement. Voilà
pour la place naturelle d'entrepreneur pour la République de donner des exemples comme cela.
Ce fut encore le cas ce soir. C'est terminé. Merci messieurs, Xavier Piatrolin, Léonidas Kalogiropoulos, Alexandre Malafaï. Merci pour cette belle émission. 18h58, l'info continue dans un instant sur BFM.
Bonne fin d'année.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.